Mémoire d'un continent.
Elikem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
La coalition des artistes pour l'histoire générale de l'Afrique, Jacob Desvarieux. Les historiens de l'Afrique en sont aujourd'hui à la troisième, peut-être à la quatrième génération, depuis la génération des fondateurs, ceux qui, dans les années 50 et au début des années 60, ont conçu l'histoire générale de l'Afrique. Une entreprise ambitieuse que beaucoup donnaient comme perdue d'avance, puisque aucun continent jusqu'alors n'avait réussi à réunir les historiens des différentes nations pour écrire une histoire collective. L'Europe, évidemment, n'y est pas venue, et on comprend pourquoi. Avec toutes les guerres que les pays se sont fait, l'Asie non plus, même s'il y a une grande unité de civilisation par les échanges, par les croyances religieuses, l'Amérique latine et la Caraïbe en étaient à peu près au même point. C'est une histoire très complexe, douloureuse, faite de violence et qui du coup a beaucoup de mal à être prise en charge par les citoyens d'aujourd'hui. En Afrique, les choses auraient pu être identiques, sauf que ce grand continent a quand même des traits de civilisation qui sont communs dans toutes les régions, sauf aussi le fait que la colonisation est passée par là, dans presque tous les pays, même l'Éthiopie et le Libéria qui n'ont pas été colonisés ont connu quand même des formes de colonisation, des menaces de colonisation, et donc cette œuvre, l'histoire générale de l'Afrique, soutenue par l'UNESCO, a pu voir le jour. Conçue en 1960, réalisée dans les années 1990. Voici que désormais, l'Organisation de l'Unité africaine a cédé la place à l'Union africaine, qui non seulement veut réunir tous les États, mais qui a considéré que la diaspora africaine est l'une des régions du continent africain. Nous recevons aujourd'hui à nos micros quelqu'un qui vient de la diaspora africaine et en même temps qui se considère comme africain et comme citoyen du monde. Ce que nous, historiens dans nos textes, nous appelons l'Afrique globale. Bonjour Jacob Desvarieux.
Bonjour.
Merci d'être venu à nos micros. Alors, vous êtes musicien comme Ray Lema, comme Manu Dibango, et vous avez accepté presque d'entrée de jeu à faire partie de la coalition des artistes pour l'histoire générale de l'Afrique. Expliquez-nous un peu comment et pourquoi.
C'est-à-dire que au départ, quand Ray, Wally, tout ça m'ont expliqué ce qu'ils voulaient faire, j'ai dit, mais il faut qu'on soit dedans, parce que nous, on fait partie du peuple en question, parce que vous voulez raconter l'histoire de l'Afrique, c'est vrai qu'on est de l'autre côté de l'océan, mais on n'a pas été à la nage, donc c'est parce qu'on nous a amenés. On va dire, on va être gentil, donc c'était une croisière et on n'est pas revenu. Bon, le problème c'est que nos enfants, ils peuvent pas devenir quoi que ce soit tant qu'ils savent pas ce qui s'est passé avant, comment on est arrivé là. Voilà, imaginez par exemple des petits Chinois ou des petits Asiatiques qui se retrouvent à côté de nous, s'ils savent pas comment ils sont arrivés là, ils vont avoir du mal, vous voyez, à évoluer. Et je dis, bon, il faut absolument que je sois dedans. Parce que on a des trucs à dire, je sais même pas comment, si je devrais expliquer ça ou comment je peux expliquer ça. On doit être dedans, voilà. Donc ils m'ont dit bienvenue.
Et dans votre histoire personnelle, l'Afrique, vous la connaissez physiquement?
Oui, un petit peu. Alors je veux dire un petit peu parce que vu la grandeur du continent, j'ai vécu un petit peu quand j'étais gamin, entre 12 et 14 ans. Et puis je suis retourné évidemment avec mon groupe, avec Kassav, plein de fois. Mais aller avec un groupe, c'est voir l'aéroport, l'hôtel, le stade et retour. Bon, on voit pas grand-chose.
Mais même si vous laissez des traces, évidemment, puisque oui. Ces musiques, ce que vous avez fait continue et vous allez provoquer sur place des essais d'imitation.
Oui, c'est-à-dire que sur le coup, nous, franchement, on n'a pas la prétention d'aller apprendre de la musique aux Africains. C'est plutôt l'inverse, dans l'autre sens que ça marche. Ce qu'il y a eu, c'est que quand on est arrivé, peut-être qu'on a bénéficié de technologies ou d'avantages que les musiciens africains sur place n'avaient pas. Et on est venu partager ça avec eux. Et du coup, il y en a plein qui se sont dit, nous aussi on peut faire ça. Oui, on sait bien que vous pouvez jouer la musique qu'on fait. Bon, nous c'est rien. Ce qui serait bien, c'est que la musique que vous avez là, parce que nous, quand on vient chez vous, on bave du matin au soir, à écouter les musiques que vous faites, mais les musiques que vous faites, là, vous pouvez les développer comme nous, on a développé les résidus qui nous sont restés de la traversée. Parce que, arrivé aux Antilles, enfin, dans la Caraïbe, on va dire, on est arrivé, alors des gens qui venaient de plein de coins différents, qui parlaient pas la même langue, qui faisaient pas tout à fait la même musique, mais partant du principe que toutes les musiques noires ont la même racine, ça s'est développé avec les aléas des différents colons qu'il y avait, hein, bon, français, espagnol, hollandais ou autre. Enfin bon, tout ça, puis par rapport à l'environnement, ça a fait que ça a évolué un petit peu, mais ça a évolué comme la musique du Sénégal et la musique d'Afrique du Sud. Bon, à la base, on se comprend tous, mais bon, ça évolue. Alors aujourd'hui, si vous prenez un musicien de Tanzanie, plus un du Sénégal, plus un de Cuba, plus un de, je sais pas moi, de Guadeloupe ou de Martinique, ou, etc. Et vous dites, bon, jouez. Il n'y a pas de problème, 3, 4, on y va, on joue. On va faire un truc surprenant. On va faire un truc auquel aucun de nous ne s'attend. Mais on va se comprendre. C'est pas un problème, on n'a pas besoin de parler la même langue, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Et je dirais même, ça va même plus loin que les musiciens noirs. C'est-à-dire que quand je vois Cuba, par exemple, on parle toujours de la musique cubaine, moi je considère que c'est peut-être une des musiques les plus compliquées rythmiquement. Dans l'hémisphère nord, la musique de Cuba, quand vous regardez un orchestre cubain, il y a, il y a 10 blancs et 2 noirs. Évidemment, on regarde tous les 2 noirs, mais il y a quand même 10 blancs. Et on se dit, mais ils jouent une musique qui, rythmiquement, ne plaisante pas. Comment ça se fait? Ben, les blancs en question, ils sont nés dedans. Hein. Depuis qu'ils sont petits, ils écoutent ça, c'est pas un problème d'ADN. Donc, ils se sont faits à cette musique, ils se sont, ils se sont habitués. De la même façon que nous, ben, nous, on vit en France, on parle bien français. Hein. On peut mettre un accent pour rappeler d'où on vient et qui on est, mais n'empêche que... On maîtrise la langue, on peut faire des jeux de mots avec, on peut... Voilà, bon. Mais de la même façon, un blanc qui est né au Zaïre, musicalement, c'est plus tout à fait un blanc.
Oui, il y a des théoriciens parmi les historiens, les anthropologues, qui, à propos de Cuba, justement, en l'étudiant à fond, expliquent que l'esclavage a eu cette conséquence un peu étonnante, c'est que pour survivre, les esclaves ont fait ce qu'ils appellent transculturation. Mm-hmm. C'est-à-dire que ils ont gardé leur propre culture, ils l'ont transmise de génération en génération, ils ont récupéré aussi la culture des autres, qu'ils ont intégrés à leur propre culture, avec cette capacité que les dominés, peut-être, pour survivre, s'expriment un peu plus dans les lieux où ils sont un peu libres. Mm-hmm. Et c'est cette dominante qui fait que, c'est vrai, lorsque le groupe Kassav est venu dans plusieurs pays d'Afrique, ou lorsqu'on entend leur musique, on voit tout de suite que les musiciens africains rentrent là-dedans.
Mais c'est leur musique.
Sans préparation aucune. Hein.
C'est leur musique. C'est-à-dire que nous, on essaie de jouer leur musique. On a été nourri de cette musique-là. Alors, pas de façon complètement directe, dire, voilà, on a écouté telle musique de telle région, machin. On a entendu un tas de musiques, de gens qui ont été influencés par les Africains, d'Africains directement, etc. On a fait une synthèse de tout ça. Et nous, on danse dessus, mais n'importe quel pays d'Afrique peut danser dessus. Il y a des pays où on va jusqu'à maintenant, on ne parle pas de langue. Hein. Tous les pays, par exemple, les anciennes colonies portugaises, on ne sait toujours pas dire un mot en portugais, mais n'empêche que quand on y va, on fait beaucoup de monde et ils dansent sur notre musique, et ils inventent même des choses, ils font même évoluer notre musique. Bon, évidemment, c'est leur musique, donc ils la font évoluer, ils se l'approprient.
Le groupe Kassav que vous avez fondé avec d'autres, beaucoup se demandent ce nom Kassav, ça vient d'où, c'est une référence à quoi?
C'est-à-dire qu'il faut le mettre dans le contexte de l'époque, hein, c'était les mouvements identitaires, donc on cherchait... comment faire quelque chose pour que le reste du monde nous reconnaisse en tant qu'antillais, et pas simplement en tant que français ou en tant que copie d'américain ou de X ou de Y. Et donc, on a cherché une musique donc, qui soit de la musique antillaise, qui touche les antillais et qui éventuellement touche le reste du monde. Bon, ça, on serait content, mais voilà. Et puis, on a cherché aussi un nom qu'on ne peut pas confondre. C'est-à-dire, on ne va pas s'appeler Los quelque chose pour faire comme si on était cubain, ou The quelque chose pour faire comme si on était anglo-saxon, ou même en français, ou Les quelque chose. Il fallait qu'on trouve un nom qui soit identifiable. Et chez nous, par exemple, il y a ce truc-là qui s'appelle Kassav. C'est un gâteau, en fait, qu'on fait à partir du manioc et qu'on trouve bon, évidemment. Mais il a des particularités. Par exemple, le manioc qu'on utilise chez nous, il y a un poison dedans. Mais évidemment, les gens qui font ça, ils savent comment l'enlever. C'est pour les initiés, on va dire, ceux qui préparent. Et on a trouvé que c'était une bonne image. C'est-à-dire qu'on enlève le poison et puis on garde le reste pour que ce soit bon. Et puis... c'était simple à prononcer, on peut le prononcer de la même façon en chinois, en japonais, en anglais, en français, en yoruba, ça s'appelle toujours Kassav. Et puis, le manioc est c'est une racine qu'on trouve dans plein d'endroits dans le monde, notamment dans l'endroit où il y a des noirs, dans toute l'Afrique, dans la Caraïbe, on trouve ça comme élément nutritif, quoi, comme nourriture.
Avec la même capacité d'extraire le poison pour s'alimenter avec ce produit.
Voilà. Donc on a trouvé que c'était sympa, bon, comme nom, et puis voilà, on a pris ça. En plus, sachant que, quel que soit le pays où vous allez prononcer Kassav, bon, ça, vous savez que c'est pas vous allez chercher d'où ça vient, mais de toute façon, ça vient des Antilles. Alors, évidemment, j'ai vu en Afrique, par exemple, dans certains pays, ou anglophones ou autres, ils appellent ça cassava, enfin, ils appellent le manioc cassava, il y a toujours un rapport avec. Oui, sauf quoi, là, dans la musique, le groupe cassava, mais ça vient des Antilles. Voilà. Et il n'y a pas d'erreur possible, quoi. Donc, c'était important pour nous, à une époque où il y avait, l'avènement de la world music, en fait, c'était le mot gentil pour ne pas dire third world music, n'est-ce pas?
Oui. La musique du troisième monde, enfin.
Oui, oui, du tiers monde. Plutôt que de dire ça, on dit la musique du monde, c'est plus gentil. Bon, voilà, mais ben, la musique du tiers monde en question, c'était généralement, à chaque fois d'ailleurs, de la musique anglo-saxonne avec un ressortissant du tiers monde qui chante dans sa langue par-dessus. Bon, dans l'autre sens, j'ai rarement vu aussi Johnny Clegg. Voilà, c'est le seul que j'ai vu comme ça, sinon tout le reste, ce sont toujours des gens du tiers-monde qui chantent sur de la musique anglo-saxonne. Jamais des gens, des deux tiers du monde peut-être, hein, je sais pas, du monde industrialisé, en tout cas de l'Europe ou des États-Unis, qui chantent sur une musique africaine, ça on n'a pas encore vu. Donc nous on voulait pas être comparé à ça, on dit bon voilà, nous on fait de la musique antillaise, voilà, bon mais c'est tout petit, hein, vous savez, les Antilles c'est Guadeloupe et Martinique, ce sont deux îles qui font 450 000 habitants chacun, c'est-à-dire 450 000 habitants, c'est quoi, c'est un quartier d'Abidjan. C'est même pas Abidjan, c'est un quartier d'Abidjan.
Mais qui a eu quand même cette capacité de produire cette musique qui s'écoute encore aujourd'hui très bien, qui se danse aussi aujourd'hui. Dans cette musique-là, est-ce qu'il y a des morceaux que vous souhaiteriez, dont on parle à nos auditeurs?
Oui, je dirais, bon, Zoukla, c'est le médicament Nouni. Bon, ça a été le premier gros succès de Kassav. Mais qui parle, en fait, c'est même pas ce que je raconte dans la chanson qui est important, c'est la musique en elle-même. C'est-à-dire que tous les musiciens du monde, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, ils restent en arrêt devant la façon de faire cette musique-là. Parce que, ben, c'est... Comment je pourrais dire? Ce serait un résumé des musiques africaines, on va dire. Parce qu'il y en a 3 milliards, hein, bon. Mais c'est un hymne à la musique rythmique. Parce que la musique des Noirs, à la base, c'est essentiellement rythmique. Voilà. Alors que, par opposition, la musique des Blancs, alors je parle basiquement, hein, c'était essentiellement harmonique. Et de la même façon, j'en parlais tout à l'heure avec Tabou... Il disait que c'est Ray Lema et Manu qui parlaient de ça, qui disaient que autant t'as des gens dans la musique européenne, on va dire, hein, globalement, qui ont l'oreille musicale parfaite, mais on dit l'oreille musicale parfaite parce qu'ils peuvent reconnaître une note juste en l'entendant pour dire ça c'est un do dièse, et c'est un peu haut ou c'est un peu bas. Bon, par contre, tous les noirs du monde, ils ont l'oreille rythmique parfaite. C'est-à-dire, dès qu'ils entendent trois coups, ils peuvent te dire ça c'est une rythmique, voilà. Et le coup qui vient après, quel que soit là où il est, ils savent déjà le tempo du morceau. Bon, alors, nous, à la base, c'est pas génétique, c'est une question de culture, hein. On a l'oreille rythmique parfaite. Mais ça, on n'en tient pas compte parce que la façon d'écrire la musique, c'est pas très vieux, ça a 200 ans, 300 ans, enfin, c'est la musique classique. À l'époque, la musique des Noirs n'était pas encore intégrée dans les musiques occidentales. Donc, ce qui était important, c'était surtout le côté harmonique, donc ils pouvaient écrire les notes, à peu près l'endroit où ça doit jouer. Bon, on le fait jouer par des Noirs, ils vont jouer exactement la même musique, sauf que rythmiquement, ça va pas rigoler, quoi. Alors là-dessus, bon, moi je le dis sans langue de bois. Hein. Vous voyez, si vous allez à Cuba, par exemple, ils ont un orchestre philharmonique. Si vous jouez les morceaux classiques que vous entendez d'habitude, vous allez dire « Ah ouais, donc ça devait jouer comme ça. » Et ça, c'est pas un problème de noir ou de blanc. C'est le gars qui a conçu la musique. Moi, je sais pas, Beethoven, quand il concevait ses musiques, moi, aujourd'hui, j'ai pas fait de musique classique. J'entends ça, oui, à la radio. Enfin, j'écoute ça dans les circonstances, dans les concerts. Je me dis, le mec qui a écrit cette musique-là, dans sa tête, il entendait la musique rythmiquement parfaite. Il n'y a pas de « ouais, un peu plus comme ci, un peu ça, un peu... » Il n'y a pas de « un peu quoi que ce soit ». Voilà, la musique, rythmiquement, ça doit être comme ça. Harmoniquement, bon, c'est écrit, tout le monde sait le faire. Voilà. Donc, nous, ben, nos musiques, les plus basiques ou plus sophistiquées, rythmiquement, ça doit être comme ça, et pas autrement. Et harmoniquement aussi, on a aussi ça. Donc, mais personne ne tient compte du côté rythmique, parce que la plupart des spécialistes ou des gens qui peuvent expliquer cette musique ne voient que le côté harmonique, quoi. Ils vont vous dire, ouais, le jazz, alors la musique, machin, l'autre l'a fait telle note. Ouais, d'accord, mais rythmiquement, ça, c'est un détail, quoi. Alors, comme les gens qui la jouent, voilà, ils jouent. Ils ne se posent pas de questions. Donc, personne n'a théorisé là-dessus. Mais ce serait bien qu'ils le fassent un peu aussi. Bon, mais pour l'âme, pour qu'on saisisse si jamais.
Jacob Desvarieux, vous êtes artiste, musicien, et en général on voit aujourd'hui un mouvement de va-et-vient entre la musique et les autres arts du spectacle, notamment le théâtre et le cinéma. Je sais que vous avez participé à des films. Est-ce que ça n'est pas un moyen, le cinéma aussi, associé à la musique, hein, aujourd'hui ça va ensemble, de faire connaître la Caraïbe et en même temps de montrer les capacités artistiques des...
Ben, c'est-à-dire c'est, ça va plus loin que ça même, c'est-à-dire c'est de faire connaître l'Afrique, parce que les capacités artistiques, il y a des gens qui sont très bons comédiens de partout, quoi, enfin dans tous les endroits du monde. Les films, oui, il y a plein de gens qui font des films, mais qui racontent toujours une histoire. Un film, c'est toujours une histoire. Bon, alors l'histoire, ça peut être très intellectuel, ou alors ça peut servir de message, de transmettre des messages à des gens. Bon, la coalition, par exemple, nous, on voudrait transmettre l'histoire de l'Afrique au reste du monde. Enfin, au reste du monde, non. Au monde.
Au monde.
Y compris à l'Afrique. Voilà, parce que même dans l'Afrique, c'est pas tout le monde qui connaît tout, et loin de là, et ça sera jamais peut-être. Bon. Donc ce serait bien que nos réalisateurs, quand ils commencent à faire des films, au lieu de penser directement à faire du film d'auteur, ouais, alors tu comprends, il faut se prendre la tête pour comprendre pourquoi il a mis ça, pourquoi il a mis ça. Et puis d'ailleurs, comme c'est vachement compliqué à monter, et que ça coûte très cher, donc alors tous les petits problèmes, toutes les problématiques qu'on a en tête et depuis des années et qu'on a envie de faire savoir, ben on les met toutes en même temps dans le même film.
Et du coup, le film devient indigeste.
Voilà, bon, donc, ce serait bien qu'il se branche aussi sur la fiction ou sur les trucs de variété, enfin, des trucs simples, quoi, pour amener ce message-là au reste du monde, pour dire, je sais pas, moi je verrais bien une série, comme j'en vois tout le temps à la télé, là, des séries où le FBI a une cellule particulière, où ils vont chercher un mathématicien ou un psychologue ou un ceci ou un cela, qui est un génie dans le genre, pour résoudre des affaires. Et pour aller chercher un mec en Afrique, qui a peut-être pas la tête du héros, ou même s'il l'a d'ailleurs, bon. Mais qui est ce qu'en Europe, ce qu'en Occident, on considère que ouais, c'est un mec, quoi. Bon, mais qui, lui, détient certaines sciences qui viennent d'Afrique, genre les maths ou autres, et qui résout aussi des problèmes. Et chaque fois que le FBI a besoin, ils vont le chercher. Et je dis le FBI parce que c'est la boîte de renseignement, enfin, qui est censée être la plus sophistiquée au monde, quoi. Bon, ben, quand ils ont besoin de faire certains calculs, ou la NASA, ou la NSA, ou quoi, ben, d'ailleurs, il y a un film qui vient de sortir là-dessus, là, qui est produit par Pharrell Williams, entre autres, où il parle de trois femmes qui ont changé le monde, par exemple. Grâce à leurs calculs, à l'époque où il fallait faire voler des fusées pour aller sur la Lune, ben, on a fait appel à elles, simplement parce que c'était les meilleures du moment. Bah, il se trouve qu'elles étaient noires. Bon, bah, évidemment, c'était l'époque où il y avait encore la ségrégation aux États-Unis. Eh, c'était pas simple. Hein? Voilà. Mais par contre, quand t'as calculé, là, tout devenait simple. Donc, de la même façon, on peut aller chercher des gens en Afrique pour faire des trucs, pour, je sais pas, moi... trouver des idées, quoi, des idées qui permettent de faire passer le message que l'Afrique, c'est pas simplement un pays de sauvages, c'est pas un endroit où il y a que des famines, des guerres, il y a plein de choses qui ont évolué grâce à des ressortissants africains, et ça depuis longtemps. Mais malheureusement, nos enfants ne le savent pas, ou ne le savent que depuis très récemment, on en boit ça goutte par goutte. Vous voyez, donc le cinéma, c'est un bon moyen, un bon vecteur pour faire passer tout ça.
Jacob Desvarieux, votre message éventuellement aux jeunes artistes, musiciens, peintres, romanciers, enfin il y en a beaucoup dans tous les arts, par rapport à ce projet de coalition, qu'est-ce qu'il serait ?
Ben, je dirais que si je pouvais leur donner un conseil, je leur dirais, bon, allez chercher votre inspiration à la source, en Afrique en l'occurrence, parce que tous les autres le font déjà, il n'y a que les Africains qui ne le font pas. Eux, ils veulent imiter les Américains, les Jamaïcains, les Antillais, les X, les Y. Mais, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas que la source de l'inspiration de tous ces gens-là, c'est l'Afrique. C'est un peu comme si je disais, ils ont envie de boire un café. Donc, ils vont prendre un café qui a été réchauffé 5 fois et ils vont dire, ouais, ça, c'est du café, quoi. Alors que tous les autres, ils veulent chercher le café sur l'arbre, carrément, pour prendre le grain, le torréfier, même de demander au gars du village de torréfier, voir comment il fait, etc., pour arriver à avoir un bon café. Bon.
Bravo l'artiste, voilà une leçon magistrale sur la manière d'aborder l'histoire, la manière de la faire connaître, qui nous vient de Jacob Desvarieux, un artiste qu'on ne présente plus. Merci à vous d'être venu
au micro
de Mémoire d'un continent. Mémoire d'un continent, enregistré aujourd'hui dans les studios de l'UNESCO, réalisé par Olivier Raoult.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.